Session Deus Caritas Est, juillet 2012. Les saints sont les vrais porteurs de lumière dans l'histoire parce qu'ils sont des hommes et des femmes de foi, d'espérance et d'amour. Par Père Bernard, modérateur de la famille missionnaire de Notre-Dame.
Donc, cette église de Sainte-Colombe, pendant des siècles sous la protection de nombreux rois de France, est un lieu important de pèlerinage. Et pour sens, cette église est comme pour Rome l'église de Sainte Agnès. Voilà, Sainte Agnès à Rome, eh bien, aux côtés de Saint Pierre et Saint Paul, fait partie des trois saintes protectrices de Rome. Eh bien, ici, il y a les disciples dont on a parlé hier, Saint Potentien et Saint Savinien, les fondateurs de l'église de Rome, de l'église de Sens, et puis il y a Sainte Colombe. Nous voudrions parler d'abord de la sainteté avec Benoît XVI. Dans les numéros 18, 40, 41 et 42 de l'encyclique, le pape a parlé des saints. Ils sont, dit-il, les vrais porteurs de lumière dans l'histoire, parce qu'ils sont des hommes et des femmes de foi, d'espérance et de charité. Les saints, disait Benoît XVI, ont puisé dans la rencontre avec le Seigneur dans l'Eucharistie leur capacité à aimer le prochain de manière toujours nouvelle et réciproquement. Cette rencontre a acquis son réalisme et sa profondeur précisément grâce à leur service des autres. Au numéro 40, Benoît XVI invite à considérer les saints, particulièrement ceux qui ont exercé la charité de manière exemplaire. Martin de Tours, Saint Antoine d'Égypte, François d'Assise, Ignace de Loyola, Jean de Dieu, Camille de Lélis, Vincent de Paul, Louise de Marillac, Joseph Cottolengo, Jean Bosco, Louis Orion, Thérèse de Calcutta. Ces saints demeurent des modèles insignes de charité sociale pour tous les hommes de bonne volonté. Et au numéro 41, Benoît XVI dit que parmi les saints, il y a par excellence la Vierge Marie, Mère du Seigneur et miroir de toute sainteté. Dans l'évangile de Luc, nous la trouvons engagée dans un service de charité envers sa cousine Élisabeth, auprès de laquelle elle demeura environ 3 mois. Pour l'assister dans la phase finale de sa grossesse. Magnificat anima mea dominum, mon âme exalte le Seigneur. Elle exprime ainsi tout le programme de sa vie, dit Benoît XVI. Ne pas se mettre elle-même au centre, mais faire place à Dieu. Rencontrer tant dans la prière que dans le service du prochain. Alors seulement, le monde devient bon. Marie est grande précisément parce qu'elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut rendre Dieu grand. Je pense que beaucoup d'entre nous ici n'ont pas suffisamment approfondi « Mon âme exalte le Seigneur ». Si on vous posait la question, qu'est-ce que ça veut dire « Mon âme exalte le Seigneur » ? Il y a d'abord « Mon âme exalte le Seigneur » et ensuite « Exulte en Dieu mon Sauveur ». Exalter, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter en triomphe. Voilà, on exalte les héros, on les porte en triomphe. Eh bien, la Sainte Vierge, d'un certain côté, elle exalte le Seigneur. Elle reste petite, elle veut rendre Dieu grand. Elle est humble, elle ne veut rien d'autre qu'être la servante du Seigneur. Elle sait qu'elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Elle est une femme d'espérance uniquement parce qu'elle croit aux promesses de Dieu et qu'elle attend le salut d'Israël. C'est une femme de foi, heureuse celle qui a cru, lui dit Élisabeth. Le Magnificat, portrait pour ainsi dire de son âme, est entièrement brodé de fils de l'Écriture sainte, de fils tirés de la parole de Dieu. On voit ainsi apparaître que dans la parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle. Elle en sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense au moyen de la parole de Dieu. La parole de Dieu devient sa parole et sa parole naît de la parole de Dieu. Et puis, Benoît XVI nous dit, Marie est une femme qui aime. Comment pourrait-il en être autrement? Le numéro 42 est encore consacré aux saints. La vie des saints, dit Benoît XVI, ne comporte pas seulement leur biographie terrestre, mais aussi leur vie et leur agir en Dieu après leur mort. Chez les saints, il devient évident que celui qui va vers Dieu ne s'éloigne pas des hommes, mais qu'il se rend au contraire vraiment proche d'eux. On vient de nous montrer que Sainte Colombe ici a agi de son tombeau, elle a guéri un aveugle. Et elle n'a pas fait que ce miracle. Nous le voyons mieux en personne d'autre qu'en Marie, dit encore Benoît XVI. La parole du crucifié, voici ta mère, devient au fil des générations toujours nouvellement vraie. De fait, Marie est devenue mère de tous les croyants. Les témoignages de gratitude sur les grâces attribuées par la Vierge Marie dans tous les continents et dans toutes les cultures expriment la reconnaissance de cet amour pur qui ne se cherche pas lui-même, mais qui veut simplement le bien. De même, la dévotion des fidèles manifeste l'intuition infaillible de la manière dont un tel amour devient possible. Il le devient grâce à la plus intime union avec Dieu, en vertu de laquelle elle s'est totalement laissée envahir par lui. Condition qui permet à celui qui a bu à la source de l'amour de Dieu de devenir lui-même une source d'où jailliront des fleuves d'eau vive. Marie, la Vierge, la Mère, nous montre ce qu'est l'amour et d'où il tire son origine, sa force toujours renouvelée. C'est à elle, dit Benoît XVI, que nous confions l'Église, sa mission au service de l'amour. Et ce que dit Benoît XVI de la Vierge Marie, on va l'appliquer maintenant à Sainte Colombe. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui enthousiasmait tant nos pères et mères, voulait passer son ciel à faire du bien sur la terre. Dieu l'exauce au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. C'est absolument remarquable de voir l'action de Sainte Thérèse aujourd'hui. Nos amis du ciel agissent et nous aident à réaliser notre service de l'amour. Sans eux, nous serions bien incapables d'être des apôtres ou des témoins de l'amour. Nous avons donc la ferme conviction que Sainte Colombe, la Vierge martyre de Sens, va agir en nos cœurs cet après-midi. Elle est la glorieuse Vierge martyre de cette ville. Elle est née en Espagne vers l'an 255, dans la région de Saragosse. Ses parents étaient nobles, mais païens. Elle consacra très tôt sa vie à Jésus. Pour notre Seigneur, elle quitta son pays, l'Espagne, où sévissaient les persécutions contre les chrétiens. Mais elle ne partit pas de l'Espagne pour éviter la persécution. Elle partit de l'Espagne pour être baptisée. Avec quelques fidèles, elle prend le chemin de la Gaule. Elle n'a pas encore 17 ans. Elle reçoit le baptême à Vienne, au lieu dit Sainte-Colombe-les-Vienne. Puis, elle se rend à Sens. Pourquoi se rend-elle en cette ville? Parce que la religion chrétienne y est très florissante. Elle est heureuse de s'établir en cette ville, marquée par le sang des glorieux martyrs dont nous avons parlé hier soir. elle se joint à la fervente communauté chrétienne. Elle était très jeune, comme nous venons de le dire. Elle résista courageusement à l'empereur romain Aurélien, qui était venu à Sens pour faire abjurer les chrétiens ou les faire mettre à mort. Malgré sa puissance impériale, Aurélien ne va pas pouvoir faire fléchir Colombe. Elle ne renonce pas à sa foi. Elle subit le martyre à quelques mètres d'ici, le 31 décembre 274, au lieu dit Fontaine d'Azon, après avoir enduré de nombreuses tortures. Les chrétiens construisirent ici une église sur son tombeau et un monastère s'y établit au 7e siècle. Selon la tradition orthodoxe, ce n'est pas la peur de la persécution, comme je l'ai dit, qui a fait quitter l'Espagne à Colombe, mais c'est sa détermination d'être enfant de Dieu. Ses parents étaient nobles, influents, mais païens. La tradition orthodoxe nomme les chrétiens qui ont accompagné Sainte Colombe, Saint Sanctien, Augustin et Béate. L'empereur romain païen, dit encore cette tradition orthodoxe, pensait que voyant leurs frères torturés, les chrétiens abandonneraient leur foi sacrée. Ce ne fut pas le cas pour Colombe. Je vous lis cette strophe de la liturgie orthodoxe en son honneur. « Réjouis-toi, innocence pure, poursuivie par le vice. Réjouis-toi, blancheur immaculée exposée aux ténèbres. Réjouis-toi, qui a retrouvé l'image et la ressemblance. Réjouis-toi, qui recouvra l'innocence d'Ève en Éden. Réjouis-toi, la créature du Créateur te servit. Réjouis-toi, Sainte Colombe, Vierge et Martyr de Sens. »
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.